Peter Knapp et Roland Michaud, les nuits de Pierre Vert permettent de belles rencontres.
Peter Knapp et Roland Michaud sont des artistes reconnus depuis plus d'un demi-siècle au parcours différent et qui partagent cependant un attachement commun à l'Afghanistan des années 60 et 70. Tous deux octogénaires, ils ont traversé la seconde moitié du XXe siècle, appareil photo en main, et continuent de transmettre avec passion leur amour d'une certaine façon de vivre où les rencontres et l'esthétique ont mené la danse de chaque côté. Avec son épouse Sabrina, Roland Michaud forme un couple de photographes voyageurs dont les ouvrages magnifiques essentiellement sur l'Asie ont incité des générations de découvreurs de l'humanité. Des voyages en curiosité, mais qui se sont vite transformés en humanité partagée avec les habitants des contrées traversées. En Inde, Chine ou Afghanistan, les Michauds retiennent des images et une lumière extérieure superbe, autant qu'une lueur interne, propre à la méditation et à la sérénité. Toute leur vie sera dédiée à la transmettre en Occident. Peter Knapp, lui, est un maître de l'image de mode. Son immense carrière dans le glamour, mais pas uniquement, tant sa recherche personnelle, c'est être aussi social. En fait, un professionnel apprécié pour sa sensibilité et son éloquence unique, sans jamais manier la méchanceté ou l'adversité qui règne pourtant dans ce milieu où l'on ne se fait pas de cadeaux. Peter Knapp apporte son regard de sage à un monde en mutation, pour ne pas dire perdition. Invité des nuits photographiques de Pierre Vert, Roland Michaud a visité l'exposition de Peter Knapp à la Fondation Carzou de Manosque et ce fut l'occasion d'une rencontre éblouissante de chaleur et de générosité. Si le temps qui passe semble ne pas avoir de prise sur les deux artistes, toujours aussi alertes, il n'en a pas eu non plus sur la durée de l'interview croisée qu'ils ont accordée à François Malabave. C'est à une grande réflexion sur le temps et l'art de l'image avec deux photographes de légende que nous vous convions.
Roland Michaud, vous êtes présent aux Nuits photographiques de Pierre Vert et vous êtes ce que l'on peut appeler un photographe également grand voyageur.
Au risque de choquer certaines personnes, je suis même un voyageur avant d'être un photographe. Parce que ma passion, c'est la découverte de l'autre. Donc j'ai voulu connaître d'autres cultures et ce n'est pas la chose la plus facile. Il faut, paraît-il, un peu d'argent pour voyager. Donc, il fallait trouver un métier. Et je m'intéressais un peu à la photographie. Et j'ai dit, pourquoi ne pas essayer? On m'a dit, mais quand je me suis renseigné, tu es fou. Si tu n'es pas photographe à la fois de mode, de sport, d'industrie, que tu ne pourras pas vivre de simples photos de voyage. Mon idée, c'était éventuellement d'essayer de transmettre des émotions que j'allais rencontrer dans ces voyages. Alors je suis doué d'une grande curiosité et j'ai découvert très vite avec mon épouse que s'il y avait une recette, un secret qui permettait de devenir photographe et tout, c'était le facteur temps. Il fallait prendre son temps. Et nous avons fait une traversée de l'Asie où nous avions notre propre voiture, on avait tout sacrifié, pas d'appartement, tout ça, et où nous avions un budget d'un an. Mais les circonstances, l'hospitalité, les rencontres ont fait que ce voyage a pu durer 4 ans et demi. Paris, Singapour et retour. Et à partir de là, nous avions trouvé notre chemin. C'est-à-dire que pendant les 50 ans qui ont suivi, c'est toujours l'Asie, toujours la même chose pour approfondir et pour essayer de mieux comprendre. Et nous nous sommes donc centrés sur 3 cultures, ce qui est déjà énorme, le monde musulman, l'Inde et la Chine. Et ces 3 mondes sont pratiquement aussi fascinants pour nous aujourd'hui. Et nous avons eu la chance de faire des rencontres suffisamment fortes et belles pour savoir que l'homme est l'homme. Nous avons tous 2 yeux et un seul cœur. Et aujourd'hui, je suis capable de dire, oui, on peut avoir un ami chinois, alors que pendant des années, j'en ai douté, qu'on m'a dit, mais non, c'est les cultures aussi différentes, tu comprendras jamais. Et ce que je dis, pour moi, c'est valable pour la Chine, pour l'Inde et pour le monde musulman, au moins dans ce que je connais.
Alors vous avez voyagé pour vous, bien sûr, vous avez cette passion chevillée au corps, mais surtout, vous avez partagé cette passion avec toutes les personnes qui ont admiré vos photos.
Ah bien, si vous voulez, nous avons été très tôt conscients combien nous étions redevables d'un public, même s'il était très limité. parce que sans public, nous n'aurions pas pu faire ce métier. Donc ça nous a enseigné aussi une certaine humilité. Non, non, nous n'avons pas de mérite. Nous avons fait quelque chose, j'avais une telle passion que je n'avais pas envie de redevenir professeur, d'être derrière. Je voulais voir le monde, et j'en ai vu une petite part, mais je l'ai vu et je continue à le voir, et à creuser, à creuser. Et je suis ébloui par la beauté du monde, même à une époque aussi décadente, difficile, à la rigueur barbare que la nôtre. Vous voyez, mais la beauté est toujours là. Donc une caractéristique évidemment qui limite notre vision, c'est que nous avons vu le côté positif des choses. C'est la beauté qui nous a attirés. Les photographies de gens que je faisais, c'est ceux que je trouvais les plus beaux. Donc c'est pas subjectif, évidemment. C'est très subjectif, c'est pas objectif.
Et quand vous dites, Roland Michaud, nous, c'est que vous associez évidemment votre épouse, qui n'a pas pu être des nôtres pour cette interview, mais vous êtes un couple fusionnel et l'un aide l'autre et l'une également soutient l'autre.
Bien entendu, ça ne veut pas dire que nous savons que nous sommes le couple idéal, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais nous avons compris très tôt que nous étions complémentaires. Et quand nous avons commencé cela, moi je n'ai jamais suivi un cours de photographie, j'ai tout appris par moi-même, je ne suis pas un bon technicien, mais j'ai l'exigence, mon œil est exigeant. Et Sabrina était encore un peu loin que moi, mais elle a compris très vite, et nous avons eu cette chance extraordinaire que le milieu féminin m'était interdit, m'était fermé en Afghanistan, comme en Turquie ou en Iran, et que ma femme allait pouvoir avoir accès. Donc, nous doublions nos chances pour comprendre la signification d'un tapis qui était tissé. Si moi je demandais aux hommes, expliquez-moi le sens de ces motifs et tout, c'est des histoires de femmes, ça c'est de la décoration. Vous voyez, je n'avais pas de réponse. Et le soir, ma femme, qui avait passé sa journée avec les femmes, revenait en me disant, écoute, c'est extraordinaire, j'ai appris la signification là, de ce tapis. Parce que tout a un sens, mais nous ne le savons pas toujours. Nous croyons que comme ça. Et souvent, nous avons oublié le sens des choses. Et notre contact avec ce que j'appellerais les mondes traditionnels, que j'ai tendance à embellir, parce qu'ils ont leurs défauts. Mais la tradition, c'est extraordinaire. C'est ce que nous ont légué nos aïeux, nos ancêtres. Nous leur devons tout. Le morceau de musique que nous aimons, c'est bien quelqu'un qui l'a fait. S'il y a 500 ans ou 1000 ans, peu importe. Donc nous avons développé ce respect en nous disant, mais si ces traditions demeurent, même si certaines nous choquent, elles doivent bien avoir une certaine valeur, puisqu'elles ont traversé les siècles. Voyez, donc nous avons été amenés à être un peu à contre-courant, et dans le cas de l'Afghanistan, ça a posé des problèmes, parce que l'Afghanistan nous a vraiment tapé dans l'œil, mais d'une façon incroyable, quoi. Ça a complètement renversé notre échelle de valeur, et nous n'avons pas eu ce préjugé, les femmes voilées, mais qu'est-ce que ça veut dire une fois le balai, c'est ridicule, une femme voilée peut être aussi intelligente et aussi heureuse qu'une femme non voilée. Et si vous voulez, un jour à la radio, j'étais interviewé, j'étais tellement vexé, je dis, mais vous voulez me faire dire, je peux pas vous dire ça, je dis, parce que nous avons été dans des familles où le maître de maison nous disait, nos femmes ne viennent pas, c'est ma femme qui a préparé le repas, mais elles ne viennent pas. Et c'était l'époque où le roi d'Afghanistan avait montré l'exemple en disant, vous pouvez, celles qui veulent se dévoiler, peuvent se dévoiler. Et lui avait dit à sa femme, nous avait-il dit, eh ben, tu peux te dévoiler. Et c'est elle qui a dit non. Et nous avons essayé de comprendre. Et nous étions dans des milieux paysans où la femme, elle travaille dans les champs, elle ne peut pas être voilée. Mais quel était le rêve de ces femmes qui avaient une vie dure, de labeur et tout? Eh bien, c'était de devenir une petite bourgeoise où on n'aurait plus le travail, on se mettrait, disons, et on se voile, et là, on est incognito, on peut aller à la ville. C'était un immense progrès. Mais en Occident, qui a compris cela? Donc, si vous voulez, nous avons été amenés à remettre en cause toutes nos idées, nos préconçus, et nous en avions beaucoup. Et après, je ne vous parle pas de l'Inde, où c'était encore pire, parce que c'est encore, d'une certaine façon, plus fort. Alors, la rançon de cela, nous la payons très fort. C'est-à-dire que si nous voulons garder une certaine honnêteté intégrité ou simplement cohérence, nous ne pouvons pas accepter ces engins merveilleux. C'est contraire à ce que j'ai essayé d'apprendre, un peu de sagesse. Ah, si l'homme pouvait être un peu plus sage. Et je ne cherche pas à fonder un mouvement. Vous voyez, j'ai simplement appris, j'ai rencontré des maîtres. Je suis émerveillé par le fait que le seul domaine où les gens peuvent se retrouver, c'est au sommet le plus élevé de la spiritualité, où il n'y a plus d'islam ou de pape François ou tout ça, parce que c'est une même vérité, il n'y a qu'un ciel. Et ça, ça nous a beaucoup interpellés. Mais la rançon, c'est que nous vivons, alors que nous sommes dans la vie active, parce que la vie est difficile, hein, vous le savez, la vie d'un photographe aujourd'hui, moi, pour faire un... présenter un reportage aujourd'hui, surtout avec nos idées, on dit, oh ben non, mais oh, ils ont été en Inde, tout le temps en Inde, tout le temps en Inde. Il nous a été dit, nous, on ne veut pas, même pas voir leur travail, ils sont toujours en Inde, par exemple, et quand ils iront au Pérou, qu'ils viennent nous voir. Vous voyez, il y avait, même dans le milieu, ça a été difficile, mais nous avons eu cette chance extraordinaire de pouvoir tenir le coup et d'ouvrir une voie, c'était pas notre but, mais nous avons été suivis par un tas de jeunes, dont les meilleurs, les plus talentueux, ont fait leur chemin, un chemin magnifique. Et aujourd'hui, qui vient dire, ah ben oui, c'est en voyant les photos de Roland et Sabrina, tout ça. Mais, si vous voulez, ça fait pas tout. Et aujourd'hui, vivre sans portable et sans Internet et tout ça, je sais bien que c'est magique, je sais bien la valeur que ça a. Moi, pour prendre un billet pour venir ici à Manos, il faut que j'aille à la gare, parce que je ne peux pas faire ça de chez moi. Mais il y a d'autres avantages quand même. Et comme je suis le seul responsable de cela, je ne peux me plaindre à personne. Je me dis, mais qu'est-ce que vous attendez pour avoir votre truc? Mais je sais que ce n'est pas bon pour moi.
On vous sent, Roland Michaud, très respectueux, mais aussi imprégné de cette sagesse orientale. Et vous nous rendez un petit peu envieux, quelque part. À nos côtés, il y a Peter Knapp, qui est un ami des nuits photographiques de Pierre Vert, pour ne pas dire le père des nuits photographiques de Pierre Vert. Peter, qui a photographié la mode, qui a eu une action culturelle très importante, mais qui partage aussi avec vous quelque chose d'important, c'est cette vision que vous avez de l'Afghanistan. Peter, vous vous êtes retrouvé avec Roland Michaud sur des choses communes sur ce pays où malheureusement la situation a évolué négativement.
Je pense que nous étions en Afghanistan un peu dans les mêmes temps. Moi, j'étais dans les années 70 et il y avait encore le roi. Mais moi, contrairement à Roland, je suis quelqu'un de pressé. Moi, je suis resté que 3 mois et je n'étais pas là pour faire un constat, mais j'étais immédiatement séduit par ces différences de temps qu'on vit là-bas. Par moment, j'étais à Kaboul, il y avait des voitures 4x4, d'ailleurs moi j'en avais une, pour aller vite voir tout, le maximum de choses, et puis me trouver à des endroits qui étaient absolument sans le temps. Je veux dire que j'ai dit à Roland l'autre jour, Jésus serait sorti par une porte, on aurait trouvé ça normal. Et je pense ce temps-là a spécialement donné une valeur au travail de Roland. Parce que je l'ai découvert, moi, en rentrant d'Afghanistan. J'ai trouvé son livre. Et dans ce livre, immédiatement, ce sentiment que j'ai eu quelquefois, que Afghanistan vit en dehors du temps, et que ça pourrait être à l'année zéro, je crois, si on regarde attentivement le livre de Roland, c'est ça. Je veux dire qu'il a réussi à éviter toute voiture, tout pneu, tout computer, tout téléphone, et en feuilletant son livre, on est là. Est-ce que je suis 2000 ans avant, 2000 ans après, en cherchant des beautés neutres, si j'ose dire. C'est-à-dire, quand je dis neutre, je veux dire où l'on ne peut pas mettre une date dessus. Ça fait la richesse de son œil et de son choix dans ses photos.
Une part d'éternité ?
Un peu. Oui, c'est ça.
Roland, vous avez une réaction à ce que vient de dire Peter sur votre action
oui,
et vos livres?
Peter a mis l'accent, enfin je suis très flatté qu'il est sur ce côté intemporel, mais ce côté intemporel, nous rêvons tous à un moment d'être peut-être nés 200 ans avant, où on aurait voulu vivre à l'époque de, etc. Nous avons nos temps privilégiés de l'histoire et l'Afghanistan nous a donné l'occasion. Je voudrais préciser une chose, nous avons beaucoup été inspirés aussi par les œuvres littéraires qui nous ont inspirés. Et il y a un livre extraordinaire, à condition qu'on tombe sur la bonne traduction, mais bon, qui s'appelle « Les mille et une nuits », qui est connu du monde entier, parce que c'est un ramassis des contes qui nous touchent tous, qui viennent de la Chine, de l'Inde, des Arabes et d'ailleurs, parce que l'homme est l'homme partout. Ce livre nous a beaucoup inspirés. Et en Afghanistan et en Inde, nous avons retrouvé, mais en creusant un peu, c'est pas comme le nez au milieu de la figure. Moi, quand j'ai dit à Paris, j'arrivais de ma province d'Auvergne, j'ai dit, voilà, je suis très sensible à la miniature personne, je trouve cet art tellement lumineux, ces couleurs, qui sont des couleurs minérales, tout ça, ça me touche tellement, c'est bleu, je vais aller voir là-bas, si. Et on m'a dit, mais tu es fou, ça n'a rien à voir avec l'Iran d'aujourd'hui. Et nous avons voulu aller voir, évidemment, au premier abord, mais très vite, vous découvrez que tout le passé est là, dans le visage de cette femme qui a été peinte il y a 400 ans. Elle est là. Les critères de la beauté, personne, vous les retrouvez, les yeux comme Sissi, les trucs. Et c'est vrai pour tout, le symbolisme des couleurs, tout ça nous a passionnés. Et c'est pour ça que je me suis permis, si vous voulez, notre travail pourrait se résumer en trois livres qui sont ce que nous appelons les miroirs. L'Orient dans un miroir, l'Inde dans un miroir, la Chine dans un miroir. Ça nous a pris une vie. Nous avons voulu, pour contrarier ceux qui nous bassinaient tout le temps en disant « mais le monde a changé, le monde a changé ». Bien sûr que le monde a changé. Moi, j'ai vu, je connais relativement bien la Chine depuis une quinzaine d'années. Le paysan chinois qui ressemble au paysan ardéchois et qui est là dans ses terrasses et tout, vous voyez, là, il n'y a pas trop de... On est dans un monde intemporel aussi. Et puis, vous le voyez tout d'un coup sortir un téléphone portable et vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que c'est pour demander à sa femme si la soupe est prête pour 6 heures du soir? Mais c'est incongru. Mais ceci n'a rien à voir avec ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est cet homme, ce visage qui est ridé comme c'est pas possible, et qui est le reflet de cette terre, de ces terrasses dans lesquelles il travaille si laborieusement depuis des millénaires. Et je me dis, tiens, il y a un rapport là entre l'homme et la nature, on le sait depuis longtemps, mais c'est tellement flagrant que j'ai envie de faire un miroir. Et je photographie un morceau de relief et le visage de ce paysan, et je fais tout un livre là avec ces miroirs parce que je veux essayer de prouver que la pérennité des traditions est plus forte que les changements. Le portable, l'Internet étant un accessoire. Bon, c'est schématique, c'est caricatural. Mais toujours est-il que pour moi, ça a été une immense joie. Je suis un peu fou d'avoir osé faire ce travail. J'ai passé, vous ne pouvez pas savoir, dans les bibliothèques du monde entier, pour retrouver, dire, mais est-ce que là, tu vas trouver une image qui correspond? Tu as une bonne photo, mais il te faut maintenant trouver la peinture, ou vice-versa, parce qu'il fallait travailler dans les deux sens. Et de temps en temps, j'ai trouvé, de temps en temps, je n'ai pas trouvé. Mais quand je trouvais votre visage, il existe au fin fond de la Chine. J'ai rencontré Jésus dans les foules de l'Inde. Je dis, mais c'est pas possible. Ben oui, la Vierge Marie, c'est l'archétype, c'est la maternité, c'est beaucoup de choses. Mais cette maternité, elle est là à chaque instant, elle est là. Donc, unir. Alors tout à l'heure, ce qui m'a plu dans cette rencontre, qui m'a ému, parce que je ne m'attendais pas à que quelqu'un vienne me parler d'Afghanistan, alors bon. Et eh bien, ce qui importe, c'est ce qui nous réunit. Et j'aimerais dire, parce que ça je l'ai appris, de sage et par la pratique. Que, alors, je vais vous donner un exemple précis d'un sage qui disait, c'était au Pakistan, qui disait « Ne me donnez pas un couteau, car le couteau est un instrument tranchant. Donnez-moi une aiguille, parce que l'aiguille, voyez, et vous pouvez à ce moment-là comprendre dans le visage de certains cordonniers pourquoi dans les confréries soufiques, dans les confréries religieuses, mais de grande spiritualité, les artisans tout simples ont pu jouer un rôle parce qu'ils avaient tout le temps de réfléchir, de penser devant un travail parfois un peu ingrat. Alors il y a un dicton arabe qui dit « Le corps est dans la boutique, mais l'esprit est au ciel. » J'ai mis longtemps pour comprendre que c'était une allusion à ce monde qui est le nôtre, ce monde matériel, ce monde. Hein. Mais qui vous empêche de pouvoir vous évader? Vous avez la liberté, c'est la seule liberté qui nous reste, de nous évader à des hauteurs plus élevées. Donc, voilà. Et puis, vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de problèmes avec cet islam que je respecte beaucoup parce que j'ai connu le vrai islam. En Afghanistan, c'était pas pensable pour un Afghan que vous ne puissiez pas être musulman. Musulman, c'est un état naturel. C'est la soumission à ce qui vous domine. Vous n'êtes pas croyant ? Regardez une fleur, regardez une rose rouge. Ça ne vous donne pas envie de croire ? Cette fleur, elle est inimitable, etc. Donc, alors je reviens en ce moment, ça va très mal, entre deux tendance, les chiites et les sunnites. Alors on n'entre pas dans les détails, c'est comme les protestants, les machins, c'est comme si on entre dans les guerres de religion ici en France ou récemment en Irlande et tout ça. Mais il y avait un grand sage au XVIIIe siècle, là, dans la vallée de l'Indus, qui a laissé des poèmes, mais qui a laissé des restes de conversations où on lui demandait, parce que déjà à l'époque, il y avait des bisbilles, alors on lui demandait « Mais tu es chiite ou tu es sunnite ?» On voulait qu'il prenne parti. Et il disait « Mais moi, je suis entre les deux. » Alors, on lui disait « Mais entre les deux, il n'y a rien. » Il disait « Ben voilà, je suis rien. » C'est pas beau ?
C'est une belle explication. Vous avez fait allusion tout à l'heure en parlant de maternité, Roland Michaud, à cette magnifique photo de femmes enceintes qu'a fait Peter Knapp à nos côtés. Peter, quand vous entendez Roland parler de l'éternité des visages qu'il croise, vous qui en avez photographié des milliers et des milliers de visages, vous vous inscrivez dans le temps à quel endroit, à quel moment ?
Chez moi, les choses sont extrêmement spontanées. Vous voyez, et je n'ai ni envie, ni je suis sur une œuvre. C'est-à-dire que je suis plutôt quelqu'un qui va de essai en essai sans jamais avoir le sentiment d'avoir été jusqu'au bout. Et la vérité de ça est même, il est très rare que dans un des sujets que j'essaie de traiter en photo, je dépasse 10 ou 12 images. Je veux dire que je me concentre. Très souvent, ça me prend même très longtemps pour faire les photos. Mais une fois que je suis, au bout de 10, 12 ans, j'ai peur de me répéter. J'ai peur de rentrer dans une manière. Et aucun cas, je veux devenir un maniériste. Moi, je suis plutôt sur le proverbe de Picabia. La tête est ronde pour qu'on peut penser dans tous les sens. Et c'est un peu comme ça, sont le résultat de ce que je fais. Et de ce que je fais, ça ne vient pas de Dieu. Je n'ai pas de message politique non plus, mais ça peut être des réactions. Je veux dire, pour vous donner un exemple, à la base, je n'avais pas envie de faire un film sur Van Gogh. Mais à force d'entendre qu'il est débile, qu'il peint avec des bougies sur le chapeau, qu'il est pauvre et qu'il est malade. Je veux dire, j'en avais marre. Je veux dire, c'est quand même un homme qui a vécu toute sa vie très bien, puisqu'il a dormi à l'hôtel, il a mangé au restaurant, alors qu'on arrête avec sa pauvreté, qu'il a eu des crises, d'autres ont eu des crises, qu'il est mort à 37 ans. Toulouse-Lautrec aussi est mort à 37 ans. Hein? Rothko aussi est sauté par la fenêtre. C'est assez courant que l'artiste n'arrive pas à vivre sa vie jusqu'au bout quand il est trop concerné par les problèmes qui le portent. Donc, pour vous dire, chez moi, souvent, les choses naissent de rien du tout, une réaction. Je dînais avec un chirurgien et j'ai trouvé la conversation intéressante sans savoir ce qu'il faisait. Un peu au bout de la soirée, il me dit qu'il soigne des enfants leucémiques. Alors, je dis, mais c'est terrible, la moitié meurt. Il dit, oui, mais la moitié vit. J'ai vu que ce gars qui fait une chose extrêmement difficile avait un enthousiasme pour ceux qui arrivent à sauver. Bon, je suis allé à Bruxelles, j'ai visité son hôpital, j'ai vu ses infirmières, j'ai vu ses enfants et j'ai fait un livre. Vous voyez, je veux dire que une émotion que je peux avoir, une réaction, m'amène à un résultat, comme ce travail-là qui est là, les femmes enceintes. C'était une réaction à une jeune conservatrice, commissaire d'exposition, qui a choisi que des anciennes photos de moi. C'est dit quand même, c'est-à-dire que je veux faire une chose pour dire que je suis vivant, et donc de faire des femmes enceintes qui vont accoucher, qui vont venir avec leurs enfants au vernissage, c'était pour moi un moyen de réagir au choix qu'elle avait fait de mes photos.
Est-ce que vous auriez voulu vivre une partie de la vie d'errance et de voyage qu'ont vécu Roland et Sabrina Michaud ?
Mais toujours, encore maintenant. C'est-à-dire que je vis dans la montagne et j'aime réellement quand je suis plus haut que les arbres. C'est-à-dire qu'il y a un côté absolu que j'aime et que je cherche. Et tous les hivers, j'ai un témoin qui est avec moi, j'essaye d'être plus haut que 3500, que 3000 mètres. Vous voyez, je me sens bien dans un monde qui me semble absolu. Je crois l'envie de cette solitude est une de mes schizophrénies assumées. Je suis bien avec les autres, je suis bien tout seul.
Merci à tous les deux de cette rencontre spontanée. On se rend compte que vous êtes très différents, mais en même temps très proches l'un de l'autre. Et vous partagez beaucoup de choses, notamment l'amour de cet art extraordinaire qu'est la photo.